Je me déplace sur deux jambes.
Il y avait à nouveau des discussions politiques comme on en a rarement en fait.
De la bande organisée à la bande
à savoir, quelque chose doit revenir.
Que voilà, à Bordeaux aussi, c'est possible. Juste tu bois un coup et pouf, une manif qui déboule et en plus.
Bordeaux métropole.
La rue Kléber, elle commence à dépaver totalement. Tous les parcs à enfants ont été démantelés.
Voilà, tout le monde a le couteau à la main, tout le monde vend de la drogue.
Ça m'a l'air d'être une bande organisée, très organisée. Super play.
Radio Potlatch, un dimanche sur deux à 16h30, 90.1 sur la clé des ondes. Et maintenant qu'on a fini avec les sans-têtes, on passe à Vive les voleurs, une lecture de Yann.
Et salut à tous, j'avais eu cette idée de lire ce livre. Du coup, pourquoi ? Parce qu'en fait, un jour, un ami m'a dit qu'une des manières d'envisager la vie, c'était de la penser comme une pièce shakespearienne. Donc j'ai commencé par un poème. Chers compagnons qui vous plaignez d'être ici dans une prison, qui est-ce qui ne manque, n'a défaut de rien, comme nous ici dans cette cellule ? Nous avons notre soupe, deux pains, de l'eau aussi. On vous donne jusqu'à une chemise pour vous changer sans payer. Elle crie sur ses gonds rouillés, la porte de fer dans l'horrible prison, pleut une pâle lueur. Et sur le seuil, comme un brun autel, un blanc fantôme, une jeune fille apparaît. Un éclair dans les yeux sombres du prisonnier brille et un joyeux frisson court par ses chaînes. M, fameux voleur et chef d'une famille entière de voleurs, trois frères, la mère et deux beaux-frères, avait un grand dépôt de soie dans la ville d'Alexandrie, dans le Piémont, et voyageait continuellement. Affecté dans sa correspondance des sentiments qu'il ne possédait pas, aspect bénin et voix douce, il eut quelques accès épileptiques, et son frère mourut, phtisique, la mère devint nymphomane à accès dans sa vieillesse. Donc, je vais vous lire son récit. Je me nomme M.P. Je suis né à A en 1860. Dans mon enfance, je fus mis dans un asile. J'étais d'un caractère très violent, caractère qui fut la cause de tout ce que je souffre maintenant et qui, hélas, ne m'attira que trop de maux plus graves. Pendant une année entière, la directrice de l'asile eut la patience de souffrir mes insolences. Grâce aux prières de ma mère, mais un jour, ayant malmené un de mes compagnons, ne pouvant plus les supporter, elle me chassa de l'école. Savez-vous comment alors j'employais mon temps ? Ceux qui sont allés à Alexandrie savent que cette ville est ceinte de fossés et bastions où tous les jours se rendent une foule d'enfants qui se divisent par quartiers et se livrent de petites batailles d'où tous ne retirent pas sauf. Tous ne se retirent pas sauf. Eh bien, cet amusement fut ma seule passion pendant une année entière. Je ne pouvais pas manger. Je n'attendais seulement pas que ma famille eût fini de dîner quand j'étais déjà parmi mes compagnons. Quand j'eus accompli ma sixième année, âge où l'on peut être admis aux écoles élémentaires, mon père pensa qu'il était préférable de m'envoyer à l'école que de me laisser exposer à toutes sortes de risques. Il se rendit pour cela à la direction des dites écoles et me fit inscrire pour l'année courante. Vous pouvez imaginer quelle fut ma désolation en apprenant que je devrais bientôt terminer ce genre de vie qui me plaisait tant. Je priais ma mère que l'on ne m'envoyât à l'école que l'année suivante, mais ce fut inutilement. Je devais au moins, pour le moment, renoncer au divertissement qui me plaisait tant. Malgré cela, je ne me rendais à l'école qu'avec la ferme intention que j'aurais bientôt, comme à l'asile, lassé mon maître et repris ainsi ma liberté. L'année 1866 fut donc l'année pendant laquelle je fus mis à l'école. Pendant quelques mois, je suivis les cours de mon école, avec quelques bonnes volontés, mais quand la bonne saison commença et que je vis tous mes camarades sur les bastions qui se levaient bataille, adieu l'école. Dieu même, alors, n'aurait pu me tenir. À peine arrivé de l'école, je ne faisais que jeter mon sac de livres, manger prestement quelque chose, et au lieu d'étudier ma leçon, celui qui voulait me trouver devait aller me chercher sur les bastions de la Madeleine. Là seulement, il aurait pu me trouver. Lors de l'école arrivant, je m'y rendais, quoique de mauvaise grâce, et pendant les 10 minutes que le maître tardait à venir, je tâchais d'étudier le mieux possible ma leçon. Mais mon maître, qui était Monsieur Baird, ne tarda pas longtemps à apprendre à mon père que je ne savais jamais ma leçon. Alors mon père, pour mettre un terme à ce qu'il appelait avec raison mes coquineries, exigea, sous peine de rester 15 jours au pain et à l'eau, que tous les jours, aussitôt arrivé de l'école, au lieu de sortir pour aller me divertir, j'apprisse correctement ma leçon. Si alors il me restait un peu de temps, je pouvais me rendre à la rue avec mes camarades. Mais il m'était absolument défendu d'aller où se faisaient ces batailles. Pendant 15 jours, j'exécutais l'ordre de mon père. Mais un jour, ayant retrouvé un de mes anciens camarades, j'eus l'idée, avant d'aller à l'école, d'aller un peu me divertir. Le temps que l'on emploie en divertissement attrayant passe vite. C'est pour cela que l'heure de l'école revint sans que je m'en fusse aperçu. Quand ensuite, je me représentais la colère de mon père, que je devais justement avoir contre moi, je frémis. Mais le mal était fait. Et l'unique remède était d'affronter directement sa colère. J'aurais fait ainsi si un de mes camarades qui, comme moi, avait contrevenu au décret paternel et ne m'en avait dissuadé. Il commença par me dire que puisque nous avions fait 30, nous pouvions bien faire 31, et qu'à recevoir des coups, il était préférable que ce fût pour quelque chose. Je lui donnai raison, et nous continuâmes jusqu'à la nuit à nous divertir sans l'ombre d'un remords. Quand ce fut la nuit, oh, alors, je crois que ce fut l'unique fois que je compris bien ce que l'on nomme un remords. Je rôdai quelque temps autour de la maison paternelle sans oser affronter la colère de mon père. Puis, quand je fus pris de lassitude, je cherchais un refuge sous un escalier voisin de la maison que j'habitais. Et là, sur la terre nue, avec mon carton pour traversin, je m'endormis. Ce fut la première fois de ma jeunesse. Ce fut la première nuit que je passais hors du toit paternel. Ce fut aussi mon premier pas dans la voie de la perdition. À partir de ce moment, jusqu'à présent, ma vie n'est qu'une série de méfaits, tous plus gros les uns que les autres, et que la rigueur de la justice vengeresse n'est pas arrivée à atténuer. Aussitôt que j'eus passé la première nuit hors de la maison, ce fut comme si j'avais rejeté toute hésitation et lâché le frein à toutes mes passions. Je pensais que mon père serait très indigné contre moi, et je pris pour cela la décision d'abandonner Alexandrie et d'aller à Gênes avec un de mes camarades, et où, comme il me le disait, nous pourrions trouver du travail. Mais pour faire cette route, il était nécessaire que nous eussions de l'argent, et nous en étions tout à fait dépourvus. J'arborais le voile à cette époque, et je ne voyais aucun moyen de pouvoir aller à Gênes. C'était le jour de la Toussaint. Ma mère, pauvre femme, n'avait pas pris de nourriture depuis 2 jours, tant elle était désolée de ma subite disparition. Nous eûmes l'idée, mon inséparable compagnon et moi, de nous rendre au cimetière où, selon la coutume en ce jour, chacun va visiter et orner la tombe de ses parents, avec l'espérance de trouver à gagner quelque chose pour faire le voyage de Gênes. En route, nous fîmes la rencontre de 2 autres de nos camarades, qui déjà s'en retournaient. Leur ayant exposé notre projet de partir pour Gênes, ce jour même, ils nous applaudirent, et l'un d'eux, un certain MG, voulut s'unir à notre expédition. Celui-ci, qui était plus vieux que nous, avait travaillé toute la semaine et se trouvait par conséquent en mesure de faire la route. Il possédait 2 francs qu'il mit à notre disposition. Aussitôt dit, aussitôt fait, et sans embagage, nous partîmes pour Gênes. Je ne raconterai pas notre voyage, ce serait inutile. Qu'il suffise de savoir que nous partîmes d'Alexandrie le 30 novembre et arrivâmes à Gênes le 17 décembre. Quand nous partîmes, nous étions possesseurs de 2 francs, et quand nous arrivâmes à Gênes, nous avions chacun 25 francs. Mais me direz-vous, comment avez-vous pu vous les procurer? Que celui qui a du cœur l'imagine.
Sans tête et une minouche, tu vas nous lire Histoire de l'œil de Georges Bataille.
C'est ça. Du coup, juste avant de démarrer, c'est la partie du livre qui explique un peu pourquoi est-ce qu'il s'appelle Histoire de l'œil et elle est un peu crue. Je vais premièrement te dire une histoire. Tu sais que les pendus ou les garrottés bandent si fort au moment de l'étranglement qu'ils éjaculent ? Tu seras donc martyrisé, mais en baisant. Le prêtre épouvanté se redressa, mais l'anglais lui tordant un bras le jeta sur les dalles. Sir Edmond lui lia les bras par derrière. Je lui mis un bâillon et ficelai ses jambes avec ma ceinture. Étendu lui-même à terre, l'anglais lui tint les bras dans l'étau de ses mains. Il immobilisa les jambes en les entourant des siennes. Agenouillé, je maintenais la tête entre les cuisses. L'anglais dit à Simone « Maintenant, monte à cheval, sur ce rat d'église. » Simone retira sa robe. Elle s'assit sur le ventre du martyr, le cul près de sa verge molle. L'anglais continua, parlant de sous le corps de la victime. « Maintenant, serre la gorge. » Un tuyau juste en arrière de la pomme d'Adam. Une forte pression graduelle. Simone serra. Un tremblement crispa ce corps immobilisé et la verge se leva. Je la pris dans mes mains et l'introduisis dans la chair de Simone. Elle continua de serrer la gorge. Violemment, la jeune fille, ivre jusqu'au sang, fit aller et venir la queue raide dans sa vulve. Les muscles du curé se tendirent. Elle serra enfin si résolument qu'un plus violent frisson fit trembler ce mourant. Elle sentit le foutre inonder son cul. Elle lâcha prise alors, abattue, renversée dans un orage de joie. Simone demeurait sur les dalles, ventre en l'air et la cuisse dégouttant du sperme du mort. Je m'allongeai pour la foutre à mon tour. J'étais paralysée. Un excès d'amour et la mort du misérable m'épuisaient. Je n'ai jamais été aussi content. Je me bornais à baiser la bouche de Simone. La jeune fille eut envie de voir son œuvre et m'écarta pour se lever. Elle remonta son cul nu sur le cadavre nu. Elle examina le visage, épongea la sueur du front. Une mouche, bourdonnant dans un ray de soleil, revenait sans fin se poser sur le mort. Elle la chassa, mais soudain poussa un léger cri. Il arrivait ceci d'étrange. Posée sur l'œil du mort, la mouche se déplaçait doucement sur le globe vitreux. Se prenant la tête à deux mains, Simone la secoua en frissonnant. Je la vis plongée dans un abîme de pensées. Si bizarre que cela semble, nous n'avions cure de la façon dont la chose aurait pu finir. Si quelque gêneur était survenu, nous ne l'aurions pas laissé longtemps s'indigner. Il n'importe. Simone, se dégageant de son hébétude, se leva, rejoignit Sir Edmond qui s'était adossé au mur. On entendait voler la mouche. « Sir Edmond, » dit Simone, collant sa joue à son épaule, « ferez-vous comme je veux ?»« Je le ferai probablement, » lui dit l'anglais. Elle me fit venir à côté du mort et, s'agenouillant, écarta les paupières, ouvrit largement l'œil à la surface duquel s'était posée la mouche. « Tu vois l'œil ?»« Eh bien, c'est un œuf, » dit-elle en toute simplicité. J'insistais, troublée. « Où veux-tu en venir ?»« Je veux m'amuser avec. » »« Mais encore ?» Se levant, elle parut congestionnée. Elle était alors terriblement nue. « Écoutez, Sir Edmond, » dit-elle, « il faut me donner l'œil tout de suite. Arrachez-le. » Sir Edmond ne tressaillit pas, mais prit dans un portefeuille une paire de ciseaux, s'agenouilla et découpa les chairs. Puis, il enfonça les doigts dans l'orbite et tira l'œil, coupant les ligaments tendus. Il mit le petit globe blanc dans la main de mon amie. Elle regarda l'extravagance, visiblement gênée, mais n'eut pas d'hésitation. Se caressant les jambes, elle y glissa l'œil. La caresse de l'œil sur la peau est d'une excessive douceur, avec un horrible côté cri de coq. Simone cependant s'amusait, glissait l'œil dans la fente des fesses. Elle s'étendit, releva les jambes et le cul. Elle tenta d'immobiliser le globe en serrant les fesses, mais il en jaillit, comme un noyau des doigts, et tomba sur le ventre du mort. L'anglais m'avait déshabillée. Je me jetai sur la jeune fille et sa vulve engloutit ma queue. Je la baisai. L'anglais fit rouler l'œil entre nos corps. « Mettez-le-moi dans le cul !» cria Simone. Sir Edmond mit le globe dans la fente et poussa. À la fin, Simone me quitta, prit l'œil des mains de Sir Edmond et l'introduisit dans sa chair. Elle m'attira à ce moment, embrassa l'intérieur de ma bouche avec tant de feu que l'orgasme me vint. Je crachai mon foutre dans sa fourrure. Me levant, j'écartai les cuisses de Simone. Elle gisait étendue sur le côté. Je me trouvais alors en face de ce que, j'imagine, j'attendais depuis toujours. Comme une guillotine attend la tête à trancher. Mes yeux, me semblait-il, étaient érectiles à force d'horreur. Je vis, dans la vulve velue de Simone, l'œil bleu pâle de Marcel me regarder en pleurant des larmes d'urine. Des traînées de foutre dans le poil fumant achevaient de donner à cette vision un caractère de tristesse douloureuse. Je maintenais les cuisses de Simone ouvertes. L'urine brûlante ruisselait sous l'œil, sur la cuisse la plus basse. Sir Edmond et moi, décorés de barbe noire, Simone coiffée d'un risible chapeau de soie noire à fleurs jaunes, nous quittâmes Séville dans une voiture de louage. Nous changions nos personnages à l'entrée d'une nouvelle ville. Nous traversâmes Ronda, vêtue en curé espagnol, portant chapeau de feutre noir velu, drapant nos capes et fumant virilement de gros cigares. Simone en costume de séminariste, aussi angélique que jamais. Nous disparûmes ainsi sans fin de l'Andalousie, pays jaune de terre et de ciel, infini vase de nuit noyée de lumière, où, chaque jour, nouveau personnage, je violais une nouvelle Simone, et surtout vers midi, sur le sol, au soleil et sous les yeux rouges de Sir Edmond.
Merci Minouche. On termine très bien cette émission. On se retrouve le 25 décembre, jour de la naissance du cul de Jésus. Si on est là le 25, mais on sera là le 25.
Et le 21, il y a le solstice d'hiver.
Ok. Vous pouvez réécouter l'émission sur radiopotlatch.noblogs.org. Dans les choses qui vont se passer un peu à Bordeaux dans les jours qui viennent, c'est la discussion sur Sortir de la démocratie d'Ali Kebir au Mont de Charge le samedi 17 décembre à 18h. Et voilà, donc nous on se retrouve le 25 décembre. Ensuite, on sait pas trop ce qu'on fait. Peut-être on va essayer d'être là le 31 au soir de faire la fête ici. On verra si c'est possible. Et en attendant, on termine avec un dernier morceau. Et je vous dis à bientôt. When you came in, the air went. And every shadow filled up with doubt. I don't know who you think you are, but before the night is through, I wanna do bad things with you. I'm the kind to sit up in his room, sick and eyes filled up with blue. I don't know what you've done to me, but I know this much is true. I wanna do bad things with you. Okay.
shadows there, filled up with doubt. I don't know who you think you are, but before the night is through, I wanna do bad things with you. I wanna do real bad things with you. I don't know what you've done to me, but I know this much is true. I wanna do bad things with you.